pense qu'il serait bien de commencer par un mot de prière, remettre ça entre les mains du Seigneur, que je dise pas trop de folie, que c'est le Seigneur qui guide. Merci Seigneur, nous arrivons à la fin de cette lettre de Jean. Nous arrivons à une conclusion qui ressemble à des coups de trompette. Une conclusion, Seigneur, qui est éclatante, qui est culminante, qui nous montre, Seigneur, plein de choses utiles et fort utiles dans nos vies. Nous avons besoin, Seigneur, de se confier en cela. Nous avons besoin de se confier en toi. Et tu nous montres, Seigneur, que tu es celui qui est le plus sûr, le plus efficace. Tu es celui qui est le plus sécuritaire dans la vie du croyant. Nous voulons voir cela et nous voulons le mettre dans nos vies comme une évidence afin qu'il guide nos pas dans le futur. Nous te remercions, Seigneur, de nous montrer tout cela et bien plus encore. Nous te remercions de nous le montrer non seulement intellectuellement, mais dans l'expérience de chacune de nos vies, à tous les jours, jusqu'à ton retour. Nous te remercions et nous te rendons gloire par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai un de mes amis qui a l'habitude, dans toute situation, de mettre un verset biblique. Tout ce qui arrive, il met un verset biblique. À un point tel qu'à un moment donné, il faisait son épicerie, puis il y a un homme qui s'approche de lui et il dit, excusez, je ne trouve pas le pain. C'est vous ce qui est le pain? Il se lève, il dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement. Le gars, il dit, wow, arrête. Je veux juste savoir ce qui est le pain. Si on lit les versets ici, je le vois très bien dans un vendeur d'assurance qui s'arrive pour nous vendre des assurances. Puis on commence à lui lire. Dans 1 Jean, au chapitre 5, à partir du verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène point à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'assurance, thème principal de ces derniers versets de la lettre. Et Jean semble prendre une grande importance sur l'assurance que nous avons en Christ. À plusieurs reprises dans la lettre, Jean veut nous rappeler que nous savons, que nous connaissons des choses. Et même à 36 reprises, par différents mots, Jean nous dit que nous pouvons avoir l'assurance parce que nous connaissons. Il revient ici dans les conclusions et il conclut la lettre en emmenant un point culminant. À 7 reprises, il mentionne que nous connaissons, que nous savons des choses. Et ce que nous savons forge notre ligne de pensée. OK? Il y a des choses que je sais aujourd'hui et que je ne fais pas parce que je sais qu'ils sont néfastes pour moi. Il y en a d'autres que je sais que je veux faire et je les fais parce que je sais que c'est une bonne chose pour moi. Ce que je sais va forger ma vie. Et lorsque ces choses sont attachées aux choses de Dieu, elle a la faculté de me donner une assurance, une certitude. Dans le texte, dans les 5 chapitres que nous avons lus, Jean utilise 2 mots qui sont utilisés aussi dans le texte que nous voyons pour définir la connaissance. Nous savons, nous connaissons, et ces 2 mots, c'est « oida » et « ginosko ». Dans le texte qui nous intéresse, les 6 premiers mots, où ce qu'il dit que nous savons des choses, au verset 13, au verset 15, au verset 18 et au verset 19, et même le premier du verset 20, c'est le terme « oida ». Et le dernier, pour connaître le véritable, c'est le terme « ginosko ». Oida peut être comparé à une connaissance intellectuelle. Je sais des choses, je les sais avec ma tête. Je sais très bien, je sais plein de choses, je sais des mots par cœur et ainsi de suite, mais c'est avec ma tête. Ginosko, c'est plus un processus, c'est une expérience de vie. Je connais par expérience. Je connais Oida, le premier ministre Stephen Harper. Je sais qu'il existe, je sais qu'il y a un nom comme ça, mais c'est tout. Mais je connais Ginosko, mon épouse, parce que j'ai un vécu avec. Je la connais beaucoup plus profondément. La parole de Dieu nous donne un exemple, dans la même phrase, où ce que Jésus parle à Pierre, lorsqu'il lave les pieds de Pierre, il dit... « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, Oida. Mais tu le comprendras bientôt, Ginosko. Ce que tu sais même pas intellectuellement ce que je fais. Tu comprends pas qu'est-ce que je te fais. Mais plus tard, tu vas aller même beaucoup plus loin. Tu vas avoir une expérience de vécu avec moi. » Et c'est les termes que Jean utilise ici. Nous savons des choses intellectuellement qui guident notre vie, mais nous savons aussi des choses avec notre cœur qui font beaucoup plus que changer notre vie. Ils changent complètement et définitivement notre vie. Nous voyons que dans toute l'épître de Jean, de ce que nous avons vu, il y a 3 buts dans la lettre. Jean écrivait à ces gens pour 3 buts très spécifiques. Le premier, dans Jean 1, 4, il dit « Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Il écrivait au chapitre 2, verset 1, « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et finalement, le texte qui s'adresse à nous au verset 13 ici, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Dieu veut que l'on soit conscient de cette certitude. Ah oui, je suis certain, mais est-ce que tu en es vraiment conscient quand tu te lèves le matin, quand tu confrontes des adversités, lorsque ça va mal dans ta vie? Oui, je suis certain. Malgré l'opposition de mon entourage, est-ce que je reste certain? Ça vous est sûrement arrivé, en tout cas moi ça m'est arrivé, de me faire poser la question, comment ça se fait, tu peux être si sûr d'être sauvé? Parce que Dieu me l'a dit. Mais je peux avoir cette certitude-là dans mon cœur, et parce que Dieu me l'a dit, et parce que je l'ai pris, j'y suis conscient de cela. C'est une doctrine qui a été très contestée, qui est encore contestée. L'assurance du salut. C'était contesté dans les âges, au Concile de Trente, dans les années 1500. Le cardinal Bellarmine disait que l'assurance du salut était la principale erreur des hérétiques. La principale erreur. Le monde peut contester cette position-là d'assurance du salut. Mais la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est de l'esprit de Dieu que nous pensons, et non pas de l'esprit du monde. Et ça fait toute la différence. Si l'Église catholique a mis des grands contestataires de ça, de cette position-là, a aussi l'inverse, Augustin, qui disait à propos de l'assurance du salut, l'assurance du salut, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la dévotion. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est notre foi. Ce n'est pas de la présomption, c'est la promesse de Dieu. Dieu nous a promis cette assurance. Et Dieu tient parole. Dans la connaissance que Dieu veut que nous ayons, il veut que nous soyons sûrs de notre salut. Il ne désire pas que l'on revienne constamment sur notre position. Je suis sauvé. Ah, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, là. Et j'avais entendu une histoire, un homme de Québec, qui, les jours de pluie, il n'était pas sauvé. C'est un peu bizarre comme pensée, mais il pensait ça, lui. Je dis, fais quelque chose, mets-toi une lumière sur un parapluie, n'importe quoi, mais tu es toujours sauvé, tu as cette assurance-là. Ça devrait être clair que le sacrifice parfait de Christ à la croix a vraiment été, qui a vraiment tout accompli, et qu'il a tout accompli pour ceux qui croient en lui. Et ça devrait être définitif. J'ai cette assurance-là, et rien au monde ne peut déroger de cela. Finalement, il veut que l'on sache que nous avons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est beaucoup plus qu'une période de temps. Lorsqu'on pense à la vie éternelle, on dit « Ah, ça va être une éternité, ça va être long. » La vie éternelle, c'est beaucoup plus qu'une période de temps. C'est la personne de Jésus-Christ dans nos vies. Je n'ai pas besoin d'être enlevé pour vivre l'éternité. Je suis dans l'éternité. J'ai Christ dans ma vie. Et j'ai commencé, il y a déjà quelques années, à vivre l'éternité. Elle prendra une autre forme à l'enlèvement, mais présentement, c'est ce que le Seigneur m'amène à voir. Une éternité avec Christ. Dieu veut qu'on ait aussi cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Certains scientifiques, je crois qu'Albert Einstein avait cette pensée-là, et d'autres aussi avaient cette pensée-là. Des scientifiques qui croient en Dieu, croient que Dieu a mis l'homme sur la terre et qu'il ne se mêle pas des affaires de l'homme, qu'il laisse aller, qui s'arrange avec ses affaires. Ça ne rejoint aucunement le verset 14 et le verset 15. Dieu est un Père qui est à l'écoute. C'est un Père qui a toujours l'oreille ouverte pour ses enfants. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu écoute. Dieu entend. Il n'est pas comme lorsque votre épouse, puis je vous parle d'expérience personnelle, vous parle, puis quand ça fait 5 minutes qu'elle vous a parlé, vous levez la tête et dites « Hein? Qu'est-ce que tu as dit là? » Tu es tout gêné. Écouter sans vraiment entendre. Être là sans vraiment être là. Dieu n'est pas comme ça. Je me rappelle mon père. Quand on était jeune, on descendait à Québec. Ma famille vient de Québec. Puis on descendait à Québec à toutes les deux fins de semaine. Puis à toutes les deux fins de semaine, on passait en face d'une course, d'une piste de course, de dirt track. Puis à chaque fois qu'on passait là, je demandais à mon père, « Hey, on va-tu aller voir une course un jour? » Oui. La prochaine fois qu'on descend, on va y aller. La prochaine fois qu'on descendait, je dis, « On va-tu voir une course? » Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ah, il est trop tard. Je l'attends encore, ma course. Là. Trop tard, malheureusement. Mais ce n'est pas ce genre d'écoute-là que le Père a. Le Père écoute. Il prend soin de bien écouter. Il prend soin de bien analyser qu'est-ce qu'on demande. Et si nous savons qu'il nous écoute, et on sait qu'il nous écoute parce qu'il est fidèle, c'est ce que l'on disait ce matin, il est fidèle et véritable. Il ne manque jamais. Il est constamment en écoute. La ligne est constamment ouverte. Peut-être que c'est nous qui ne l'occupons pas assez, mais lui, il nous attend. Et en plus de ça, il connaît bien nos besoins. S'il sait qu'il nous écoute, nous avons l'assurance, c'est-à-dire nous avons l'audace, la hardiesse, le courage d'aller vers lui et de lui demander. Et nous avons la liberté de parole. Nous pouvons nous approcher au Seigneur et dire, « Seigneur, là, je voudrais vider le cœur. J'aurais tellement de choses à te demander. Vas-y, je t'écoute. Je veux te faire part de mes désirs. J'aimerais tellement savoir telle chose. Vas-y, je t'écoute. » Mais nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Mais le mot-clé dans ces deux versets est « selon sa volonté ». Selon sa volonté. Il n'est pas toujours évident de connaître sa volonté. Mais il peut arriver plus souvent qu'autrement que l'on sait exactement que notre prière est une prière de foi, est une prière que Dieu va répondre. On rencontre des gens, peut-être vous-même. Ça m'est arrivé dans ma vie où ce que je savais que Dieu était pour répondre à ma prière. Ah, j'ai manqué de foi. Parfois, j'ai dit, j'étais tellement sûr. Puis parfois, Dieu a répondu quand même. Même si j'ai eu défailli. Et on rencontre des gens qui prient et qui savent qu'ils sont dans la, ils savent qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Et Dieu dit, et les gens disent, Dieu me l'a accordé. Dieu me l'a donné. Ah, tu ne l'as pas encore, là? Dieu me l'a accordé. Il y a du retard dans le mal et c'est tout. Mais c'est à moi. Dieu me l'a donné. J'ai cette assurance-là. Et on lit, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Le temps du verbe. Nous savons que nous possédons la chose. Je l'ai. Même si je ne peux pas en disposer, là, présentement, je sais que Dieu me l'a accordé. Et c'est vraiment cette assurance-là que Dieu nous donne. La journée que je vais faiblir et que je vais douter, je pourrai lire ces versets-là. Je possède la chose que j'ai demandée. Et puis j'ai cette conviction-là dans mon cœur que Dieu me la donne. Dans les suites du verset 16 et verset 17, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui n'amène pas à la mort. On voit dans le verset 16 et 17 que l'Esprit donne un exemple de prière. Lorsqu'on demande un exaucement, on prie Dieu. Et Dieu donne un exemple de prière. Ce n'est pas évident de prier et de lire ces versets-là. Mais on peut les regarder quand même. On voit qu'il y a différents péchés. Il y a des péchés qui, on ne dit pas des petits ou des grands, le péché est toujours le même niveau pour Dieu. Mais Dieu traite les péchés différemment. Il y a des péchés qui mènent à la mort et d'autres qui ne mènent pas à la mort. C'est un peu difficile à comprendre dans les détails. Jean semble parler d'une situation particulière à d'autres personnes. C'est comme si on s'ingère dans une situation où ce qu'on n'a pas entendu le début. Et puis là, on comprend le texte, mais on ne sait pas de qui il parle ou de quoi il parle exactement. Mais on peut en retirer des leçons de ce que Dieu nous montre dans ces versets-là. Tout d'abord, la Bible mentionne des cas où le péché a mené à la mort directement. Dans l'Ancien Testament, les deux fils d'Aaron qui ont emmené un feu étranger, Nadab et Abihu, ils ont emmené du feu étranger à l'autel et Dieu n'a pas accepté. Il a tué ces deux hommes-là. Dans Nombre 16, la révolte de Corée contre Moïse. Un péché qui mène à la mort. Dans les Actes, dans le livre des Actes, Ananias et Saphira qui ont menti à l'Esprit. Péché qui mène à la mort. 1 Corinthiens, au chapitre 11, où le péché dans l'église de Corinthe, des gens qui participaient et à la table du Seigneur, et en même temps, ils adoraient les idoles et les démons. Et Paul va dire, il y en a beaucoup qui meurent. Ou dans le premier épître aux Corinthiens aussi, au chapitre 5, où un homme avait des relations avec sa belle-mère. Des situations où le péché mène à la mort. Ces péchés ont tous un point commun. Ce sont tous des péchés prémédités. Les gens savaient ce qu'ils faisaient. Leur conscience était assez éveillée pour qu'ils sachent très bien que c'était mal ce qu'ils faisaient. Et ils ont continué à le faire. Les gens ont agi en connaissance de cause. Maintenant, on ne dit pas que tous ceux qui commettent ce genre de péché sont obligatoirement des péchés qui mènent à la mort. C'est pas ça qu'on dit. C'est pas ça que le texte dit. Et sans vouloir aller trop loin, on peut comprendre qu'est-ce que le texte nous apprend. Il nous apprend, premièrement, que Dieu traite les péchés différemment les uns des autres. Et il décide, dans certaines situations, d'arrêter sa décision. Il dit, ça va suffire, c'est assez. Au lieu d'aller de pire en pire, et il connaît l'avenir, il préfère arrêter la situation tout de suite. Deuxième chose que ce texte nous apprend, c'est que moi, comme chrétien, je n'ai pas à chercher qui fait ce genre de péché. Je ne dois pas faire de la chasse aux sorcières. Ah oui, lui, il fait pas mal de péchés, lui. Ça doit être pour mener à la mort, ça. Dieu ne me demande pas ça. Ce n'est pas à nous de décider, cela. Si Dieu me l'a caché, c'est que cela appartient à Dieu. Et je ne dois pas chercher à créer des péchés où ce qu'il n'y en a pas. Arrêtons de faire de la chasse aux sorcières. Ça s'est déjà trop fait dans le Moyen Âge. Je n'ai pas non plus à chercher quel genre de péché qui mène à la mort. Ouais, ça, c'est le genre de péché-là, là, moi, là, je clarifierais ça, là, je mettrais ça dans la classe, là, qui mène à la mort. Pas lui, mais lui. C'est pas à nous à faire ça. C'est à Dieu. Ça revient à Dieu et à Dieu seul. Je n'ai pas à sélectionner mes prières. Parce que Dieu dit, dans ce texte-là, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas prier pour ces gens-là? Pour n'importe qui? Oui, je dois prier. Je ne dois pas sélectionner mes prières. Parce que je pense que c'est peut-être un péché qui mène à la mort. Et Dieu me dit de ne pas prier pour ça. Le texte ne dit jamais cela. Et si je prie pour ces gens-là, si je prie pour quelqu'un qui aurait fait un péché qui mène à la mort, comme Dieu l'en aurait décidé, je ne serais pas blâmé de cela. Ce n'est pas à moi à faire le partage des choses. Je dois prier pour toute personne qui s'éloigne de Dieu. S'il y a quelque chose, si ma prière peut faire qu'il revienne à Dieu, je dois mettre tous mes efforts pour qu'il revienne. Si ça me touche au point que ça dépasse mes sentiments, que je vais plus loin, allons-y plus loin, priez pour lui. Dieu ne vous blâmera pas parce que vous allez prier pour cette personne-là. Mais il faut comprendre qu'il se pourrait que vous ne soyez pas exaucé. Parce que Dieu a décidé une chose. Et lorsque Dieu a décidé, Dieu ne revient pas en arrière. Dieu a décidé, et c'est tout. C'est un exemple ici. C'est un exemple qui s'attache à « selon sa volonté ». Ce que l'Esprit nous dit à travers le serviteur Jean, c'est que voilà la volonté souveraine de Dieu. Voilà ce que Dieu a décidé, et c'est tout. Car, qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui est-ce que tu es pour dire à Dieu quoi faire? Job a été repris de cette manière-là. Es-tu capable de comprendre toutes les choses de la vie? Tu es une créature, tu n'es pas le créateur. Dieu, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et c'est la position qu'il doit prendre. Et c'est la position qu'il doit prendre dans nos cœurs. Si Dieu décide, amen, Dieu a décidé. Une des assurances que Dieu nous donne aussi au verset 18, c'est que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Autre verset avec lequel j'ai eu de la misère un peu. Le péché, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais pourtant, il parle de gens qui font des péchés qui mènent à la mort. Il parle de frères qui font des péchés qui mènent à la mort, que Dieu corrige. Et la correction est la pire. Comment est-ce qu'on peut dire que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché? C'est controversé d'un verset à l'autre. Pourtant, on connaît des frères qui sont pris dans la sphère du péché. Et moi-même, c'est facile de me laisser aller et d'être embarqué dans la sphère du péché, sans problème. J'ai des occasions à tous les jours. Mais si on compare le frère avec l'incroyant, l'incroyant ne fait rien d'autre que pécher. Il ne connaît pas Dieu. Il est loin de Dieu. Le frère, même s'il est pris dans des péchés qui déshonorent Dieu, qui brisent des vies, et qui brisent des vies parfois innocentes. Vous savez, le péché, c'est la chose la plus coûteuse au monde, pour le sauver comme pour l'inconverti. Pour l'inconverti, parce que Christ est mort sur la croix pour cet homme-là aussi. Et même pour le sauver, parce que celui qui a été sauvé et qui connaît la puissance de Dieu, lorsqu'il pêche, c'est un affront à Dieu, pour son Sauveur et son Seigneur. Lui-même, celui qui va commettre des péchés, qui va le conduire à la mort, lorsqu'il va mourir, où est-ce qu'il va aller? Si c'est un frère, il va aller au ciel. Vous savez, lorsqu'on va aller au ciel, on va rencontrer Ananias et Saphira. Ça ne nous donne pas l'autorisation de pécher. Peu importe ce que je vais faire, il n'y a aucun problème, je suis sauvé. On le sait, ça. Mais ce n'est plus dans notre nature de pécher. Ce n'est plus en nous de pécher. Nous sommes sortis de cela. Nous avons une nouvelle nature. Nous sommes une nouvelle créature. Même si nous tombons, si on compare le péché de l'enfant de Dieu à celui de l'incroyant, l'enfant de Dieu est pardonné. Notre frère Gabriel mentionnait la grâce de Dieu. Quel exemple de grâce infinie. Et Romains 6 explique cette victoire sur le péché. Une grâce imméritée. Je ne comprends pas. Il y a Dieu est puissant, il y a une capacité de pardonner incroyable. On voit les péchés du monde et on voit les péchés de ses enfants. Lorsque je me regarde dans le miroir puis lorsque je me mets à penser à ma journée, je me dis, Seigneur, t'en as encore pardonné pas mal aujourd'hui. Merci pour cette grâce. Merci d'être si bon. Et amène-moi, Seigneur, à être plus près de toi encore, à être plus saint, à être plus sanctifié, moins te déshonorer, d'apprendre à te connaître encore plus. La grâce de Dieu va toujours me surprendre. Nous avons aussi au verset 19, au verset 18, excusez, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ici, il est question d'un autre ennemi, Satan, qui peut influencer le chrétien, mais qui est limité dans son action, qui est extrêmement limité. Finalement, Satan ne peut faire qu'une seule chose, ce que Dieu lui permet de faire. C'est tout. On a l'exemple de Job, où Satan allait devant Dieu en disant, « Vois ton serviteur. » Et Dieu lui disait, « Oui, tu peux faire ça, mais tu n'as pas l'air d'aller jusque-là. Ça, tu ne fais pas ça. Tu fais ça seulement. » Et Satan n'avait aucun choix. C'était ça qu'il devait faire. Il y a un ami qui allait de temps à autre prêcher à New York. C'est un ami de Californie. Puis il allait de temps à autre prêcher à New York. Puis il m'expliquait un jour qu'il était confronté dans les rues de New York, qui attendait que quelqu'un vienne le chercher pour aller à son église, à l'église où il devait prêcher. Et puis, pas loin de lui, il y avait une table, une femme qui était assise derrière avec des poupées voodoo. Puis, vous savez, les fameuses poupées avec les aiguilles. Et je crois que Satan est assez puissant pour faire influencer à ce point-là. Les poupées voodoo, ça a l'air d'être folklorique, mais c'est très réel. Et il peut faire des choses épouvantables, des choses qui dépassent l'entendement. Mais Satan a cette capacité-là. Mais cette dame regarde l'ami en question et elle regarde longtemps, longtemps. Et le livre n'arrivait toujours pas. Puis, l'ami en question regardait la femme et là, ils commençaient à se dévisager l'un et l'autre. Et la femme disait à cet homme-là, elle dit, « Malgré toute la puissance que j'ai, je ne peux rien faire contre toi. » Elle dit, « Je te regarde depuis tout à l'heure, puis je ne peux rien faire contre toi. Tu es inatteignable. Tu as une puissance qui est supérieure à la mienne. » Puis il dit, c'est soit moi ou toi qui s'en aille, tu deviens presque insupportable à côté de moi. Tu me fais peur. C'est cette puissance-là sur Satan que nous avons. Si je lis le verset qui dit « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas », ça porte un peu à confusion. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Hein, j'ai cette puissance-là, moi. Je suis assez puissant pour détourner les flèches de Satan. Pense pas. Si on traduit le texte, si on pourrait l'adapter, on pourrait dire, celui qui est né de Dieu, Jésus-Christ, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est Christ qui a la puissance. Et c'est lui qui habite en moi et qui me donne cette puissance. Sans Christ, je n'ai aucune puissance. C'est lui qui me garde de Satan. C'est lui qui permet que j'ai cette victoire sur Satan. Je n'ai aucun pouvoir moi-même sur Satan. Ma protection vient de Christ qui habite en moi. Je suis protégé par la présence de Christ. Mais en moi-même, je n'ai rien. Dieu me protège. Et dans Luc 22, 17, Jésus prie pour arrêter les attaques de Satan qui réclamait les disciples. Lorsque Jésus lavait les pieds, lorsque Jésus approche Pierre, il dit, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. » Il parlait à Pierre. Il l'a appelé Simon. « Satan vous a réclamé. » J'ai senti cela. Et pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour vous. Aujourd'hui encore, lorsque Satan m'attaque, que je ne peux même peut-être pas deviner que Satan m'attaque, Christ le sait. Et Christ me protège. Et je peux avoir la victoire sur Satan. Il peut arriver que l'on sente les attaques de Satan. Ça peut arriver. Mais c'est un ange rusé. Il peut certainement se confondre au paysage. Il peut certainement nous tromper. Mais j'ai cette assurance que Christ se garde lui-même et que le malin ne le touche pas et ne me touche pas. Si au verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un enfant de Satan. Ouh, c'est dur. J'ai déjà annoncé l'Évangile en disant ça. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un enfant de Satan. Ça a eu l'effet d'une bombe. Vous savez ce que notre frère disait ce matin, Trevor, dans le message sur la mission, et Jonas qui se prenait, qui disait, « Dans 40 jours, la ville va être détruite. » C'était pas facile à dire. Mais c'était la réalité. Eh bien, c'est le même message aujourd'hui. Peut-être qu'on ne peut pas arriver à tout le monde à dire que vous êtes des enfants de Satan, malgré que c'est la réalité. Mais voilà la mauvaise nouvelle. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Tu peux devenir un enfant de Dieu. Et c'est donné à tout le monde de devenir un enfant de Dieu. Si le monde entier est sous l'emprise de Satan, le monde entier est sous l'emprise de Satan. Le monde entier est faussé par Satan, est influencé, est dirigé. On voit les puissances de ce monde, comment est-ce qu'ils prennent tellement de mauvaises décisions. On voit la Birmanie, exemple entre autres. On voit cela et on regarde et on dit, ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce que la junte militaire dirige ce pays-là? Tue des gens. Michel, lorsqu'il a parlé de la Birmanie, on a vu un DVD que j'ai d'ailleurs à la maison sur la situation du peuple birman avant même l'orage, l'ouragan qui est passé. Et c'est terrible. C'est terrible qu'est-ce qu'ils font à leur peuple. Avant même l'ouragan, c'est épouvantable. Ils arrivent dans les villages, puis ils tuent du monde, puis les gens se sauvent, puis ils courent de village en village. Tout ce qu'ils ont, c'est un panier, et ça prend 30 secondes de se sauver du village, parce qu'au bout de 30 secondes, ils sont morts. Donc, sauve-toi, puis vite. Dirigé par Satan. Satan tient le monde dans ses mains. Mais ce n'est que temporaire. Mais on voit deux mondes différents. Et il faut faire tous nos efforts pour pas que ce monde dirigé par Satan entre dans l'Église. Parce qu'ici, c'est complètement l'opposé. Nous sommes des enfants de Dieu qui glorifions Dieu